France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur les gestes qui sauvent à la veille de la journée mondiale des premiers secours lancés par la Croix-Rouge. L'occasion de nous sensibiliser à la nécessité de nous former pour faire face aux situations d'urgence auxquelles nous pouvons tous être confrontés dans la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse des accidents de la circulation, des accidents domestiques, des catastrophes, des noyades, des malaises ou même des agressions et encore des attentats. Des événements qui font des milliers de victimes chaque année. Or, une bonne partie d'entre elles pourrait être sauvée si on savait comment réagir. À l'issue d'une semaine où il a beaucoup été question des services d'urgence saturés, il n'est pas inutile de se dire que nous sommes aussi, nous, simples citoyens, un des maillons de la chaîne, à condition de se former aux gestes qui sauvent, histoire de savoir quoi faire en attendant les secours, sachant qu'il n'y a que 30% des Français formés pour l'instant. Alors ce soir, on va voir comment se former, à partir de quel âge, à qui s'adresser. On soumettra aussi quelques cas pratiques à nos invités, histoire de ne pas finir cette journée sans avoir appris quelque chose de vraiment utile, car la radio de service public est là aussi pour ça. Avec nous pour aborder tous ces sujets ce soir, le docteur Patrick Pelot. Bonsoir.
Bonsoir.
Président Claire. De l'Association des médecins urgentistes de France, co-auteur il y a presque 3 ans, 2 ans et demi d'un rapport sur les secours à personne.
Avec Félix Faure.
Oui. Voilà, avec le colonel, le commandant des pompiers, on en reparlera. Louis-Marie Poitou, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du pôle formation à la Croix-Rouge. Nous aurons également en ligne au cours de l'émission le député de l'Isère Jean-Charles Collaroy, rapporteur d'une proposition de loi qui vise entre autres à créer un statut du citoyen sauveteur. Il nous dira pourquoi. Ce soir, plus que jamais, cette émission est la vôtre. Alors appelez-nous, n'hésitez pas, le standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et nous avons un premier appel qui nous vient de Nantes. Guénolé est en ligne. Bonsoir Guénolé.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous vos invités.
Alors Guénolé, allez, on va pas se fâcher. C'est clair le vendredi, c'est pas grave.
Ah, c'est clair,
je ne vous en veux pas. Guénolé, dites-nous pourquoi vous appelez au standard de France Inter.
Je voulais juste vous porter un témoignage d'une intervention que j'ai dû réaliser, puis vous poser une simple question ensuite. J'ai dû, lors d'une visite en ville, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a interpellé. Vite, venez, mon frère est fait un malaise, un jeune de 17 ans qui était effectivement au sol. Il respirait mais était inconscient, donc je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et lorsque j'ai commencé à appeler secours, son état s'est dégradé, donc j'ai dû commencer un massage cardiaque. J'ai la chance d'avoir été formé dans mon travail comme étant sauveteur secouriste, premier secours. Et donc, le temps que les secours arrivent, j'ai pu réaliser ce massage cardiaque. Ils ont pris la main, il y a eu un long moment derrière, mais bon, en tout cas, il a pu s'en sortir grâce à tous les maillons de la chaîne. Et ma question, c'est justement, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'intégrer dans ce cursus scolaire, au moins au collège, voire au lycée, les gestes qui sauvent et que du coup, on puisse intervenir, et n'importe qui puisse intervenir, n'importe où.
Vous-même, Guénolé, quand cet événement s'est produit, comment vous avez ressenti les choses ?
Il y a un moment de stress, de panique, et étonnamment, mon dernier recyclage de secouriste avait eu lieu moins d'un an, et étonnamment, c'est toujours ce que je me dis, le processus a déroulé quasiment tout seul dans ma tête, et c'était certainement pas parfait, mais en tout cas, ils ont pu avoir lieu, et ça a participé au sauvetage de cet adolescent.
Merci mille fois, Guénolé, pour cet appel. Patrick Pelou,
oui.
Ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est que c'est des réflexes, c'est des choses qu'il faut avoir l'habitude de faire, qu'il faut avoir fait, en tout cas, avoir appris.
C'est un beau témoignage, il faut saluer son action, qui est une action citoyenne, que chacune et chacun devrait avoir à l'esprit dans notre société qui semble de plus en plus bercée par l'égoïsme et l'irrespect des autres. L'acte d'apprendre et d'aller vers les formations telles celles de la Croix-Rouge comme celles des sapeurs-pompiers partout en France, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas la possibilité de se former.
Et la sécurité civile.
Et la sécurité civile, exactement. La protection civile à Paris. Donc tout le monde, il y a énormément de... Bon, simplement, alors évidemment, ce que dit Guénolé est juste, il faudrait les former à l'école, c'est fait.
Normalement, bientôt, en troisième, on devra, avoir appris.
Il y a un cursus qui est fait, mais c'est insuffisant, parce que d'un coup, faut aller vite, donc il y a une responsabilité. Il y a eu une expérience très intéressante faite par la mairie de Paris après les attentats. La maire de Paris s'était dit ça ne va pas, il faut former les Parisiens. Il y avait énormément de demandes. Qu'est-ce qui s'est passé? La brigade des sapeurs-pompiers de Paris a ouvert les casernes. La mairie de Paris a organisé des samedis qui sauvent, où on a formé les gens. il y a eu une simplification, il y a eu une réunion, ce qui pensait impossible, une réunion de tous les formateurs qui sont excellents, des associations de secouristes, des pompiers, des SAMU, tout le monde s'est mis autour de la table en disant bon, on va simplifier le secourisme, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qui sert vraiment à quelque chose, qu'est-ce qui sert à rien. On sait que ce qui prime, c'est le massage cardiaque sur l'arrêt cardiaque, le bouche à bouche, on n'en fait plus, d'accord. Bon, voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc du coup, on a fait les 5 gestes qui sauvent et on a condensé. On a formé des dizaines de milliers de personnes. Et il faut qu'il y ait cet élan-là. Quand est-ce qu'on apprend? C'est une bonne question. À tout âge, ok? À tout âge. Nous, on a au SAMU des enfants qui ont appelé, qui avaient 3-4 ans, qui savaient faire le 15, qui ont appelé et ça a sauvé les parents. Ça, c'est des histoires magnifiques.
Histoire magnifique. La Croix-Rouge, d'ailleurs, Louis-Marie Poitou, vous êtes responsable du pôle formation à la Croix-Rouge, formez des enfants à partir de 3 ans.
Oui, c'est exact. En fait, on éveille les enfants dès trois ans au premier secours. L'idée, c'est avec les parents de savoir appréhender les risques de la maison, notamment parce que c'est à la maison qu'il y a le plus d'accidents. Et puis savoir passer l'alerte. Guénolé en témoignait très bien. On a en tant que citoyen un rôle comme premier maillon de la chaîne des secours. Cette alerte précoce, les gestes précoces, ils permettent de sauver des milliers de vies. Et ce qu'il exprimait comme appréhension aussi à passer à l'action. C'est quelque chose qu'on observe, hein. Les situations d'arrêt cardiaque, elles se passent en majorité devant des témoins, et c'est une minorité de témoins qui passent à l'action. Donc,
les gens ont peur, ils ne savent pas quoi faire. C'est
oui,
ça,
il y a une inhibition, il y a une peur de, aussi. Il y a une peur de mal faire.
Nous aussi.
Patrick Pelloux.
Enfin, je veux dire, nous sommes les femmes et les hommes qui travaillent dans l'urgence ont aussi la trouille. Quand vous partez sur une intervention, vous avez la trouille, donc avoir peur, c'est une certitude, c'est valable pour tout le monde, faut simplement savoir vaincre sa peur et intervenir ou appeler le 18, le 112 ou appeler le 15, le SAMU pour dire voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? C'est le job notamment des assistants de régulation médicale, les PARM des SAMU, de dire faites ça, il y a des fois aux gens on leur explique, ils n'en ont jamais fait, on leur explique comment faire le massage cardiaque. On a donc formé des gens au téléphone qui sont capables de vous guider. Vous êtes, on a la richesse de ce pays qui fait que vous n'êtes jamais seul, en fait.
Louis-Marie Poitou, demain, journée mondiale des premiers secours à l'initiative de la Croix-Rouge. En deux mots, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui nous écoutent là ce soir vont pouvoir aller trouver un endroit où se former de façon très concrète.
Exactement. Depuis près de 20 ans, on propose chaque année cette journée mondiale des premiers secours, le deuxième samedi du mois de septembre, à la rentrée. L'idée, c'est de proposer des initiations, des sensibilisations courtes, gratuites, pour tous et partout en France, en métropole et en Outre-mer, avec vraiment des choses simples, ludiques. On apprend en moins de 30 minutes à réaliser un massage cardiaque, à poser un défibrillateur. Ça, c'est possible aussi pour les enfants dès 10 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier, désacraliser ces gestes, prendre conscience qu'on en est tous capables et que avec nos mains, on peut sauver des vies.
On va repartir au standard de France Inter. Bernard nous appelle de Haute-Saône, c'est ça, Bernard?
De Saône-et-Loire.
De Saône-et-Loire, oulala, autant pour moi. Vous souhaitez faire un stage, si je vois bien,
oui,
ma fiche, Bernard, c'est ça?
Oui, je me suis intéressé à la question de secouristes volontaires, comme vous le précisez là, il y a longtemps, et plusieurs fois je suis revenu à la charge, on m'a renvoyé vers les pompiers, et en fait le prix du stage, moi j'ai des très petits moyens, et j'ai pas pu souscrire à faire un stage, et je trouve ça dommage, puisque je suis prêt à être volontaire et à aider en cas de besoin.
Merci Bernard pour cette excellente question. Louis-Marie Poitou, vos formations à la Croix-Rouge, elles sont gratuites ou elles sont payantes?
Ça dépend de quelle formation on parle. Celle que j'évoquais à l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours,
Bernard,
elles sont gratuites,
demain,
elles sont ouvertes à toutes.
Il va pouvoir se former gratuitement ou pas?
Demain, Bernard, il peut se former gratuitement. Il va dans les villes de Saône-et-Loire, je ne sais pas s'il est près d'Autun, Mâcon, Chalon-sur-Saône. Il trouvera sans doute la Croix-Rouge qui lui proposera des initiations. Et puis surtout, s'il a envie de s'engager, s'il a envie de devenir bénévole secouriste, il sera accueilli les bras grands ouverts. Cette question du prix, elle n'est pas anodine. Pour nous, l'enjeu, c'est de rendre cette formation la plus accessible à tous les publics, quelles que soient les conditions de revenus. Il y a un prix moyen qu'on observe toute association confondue de 60 euros. ce prix, il n'est pas accessible pour tous. Donc pour nous, c'est un enjeu de rendre cette formation accessible au plus grand nombre. Et ça fait partie pour nous des préoccupations qu'on partage avec l'État de pouvoir proposer ces formations les plus largement possible.
Vous formez combien de personnes par an? À peu près 50 000, 60 000, c'est ça?
Même au-delà, on estime former 130 000 personnes. Il y a parmi ces personnes formées, certaines qui suivent des stages courts et d'autres qui suivent la fameuse formation prévention et secours civique de niveau 1, le PSC1, qui est la formation reconnue par l'État dans le domaine.
Alors, il y a, on le disait, la protection civile, il y a aussi les pompiers. Patrick Peloux, quand vous aviez fait votre rapport il y a deux ans et demi, il y avait quoi, 27% à peu près de la population française qui était formée. Aujourd'hui, on nous dit 30%. Bon, il y a des endroits, vous nous avez parlé de Paris tout à l'heure, où on fait des progrès. C'est encore un peu poussif par rapport à d'autres pays.
Alors, il y a d'autres pays. Alors, on fait croire qu'il y a d'autres pays où ils sont quasiment à 90%.
Quand on dit la Norvège, 95%,
ouais,
c'est pipeau, ça?
Alors, ouais, c'est un peu, ils mettent tout là-dedans pour dire qu'ils sont à 90%, tu vois. À chaque fois, on me sort la Norvège. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non. Bon, le truc, je pense que justement, il y a un côté citoyen d'engagement que tout un chacun connaît. Il y a une responsabilité individuelle. Là encore, j'insiste, on peut pas dire qu'il y ait pas des formations qui sont organisées. Elles sont organisées partout. Ce que vient de dire l'auditeur en disant c'est cher, c'est vrai, mais il y a quand même, s'il va toquer à la porte du centre de secours des sapeurs-pompiers de son territoire de santé, ils vont forcément lui proposer quelque chose. Et ce qu'on dit nous, c'est que vraiment, il y a une graduation dans le secourisme. C'est-à-dire, vous avez vraiment, et ça, ils le font très bien, vous passez des diplômes pour valider des formations aux secouristes qui vont vous permettre, par exemple, d'être moniteur, etc. Donc ça, c'est des niveaux très importants en termes de secourisme, où ils vont assez loin. C'est par exemple le niveau qu'ont les secouristes, par exemple, des sapeurs-pompiers ou les secouristes de la Croix-Rouge, de la protection civile, etc. Bon, c'est pas ce qu'on demande. Les gestes qui sauvent, c'est en fait pour tenir les 5-10 premières minutes. Parce qu'en gros, partout en France, à Paris, les sapeurs-pompiers sont là en moins de 10 minutes. D'accord.
Donc, or, tout se joue dans les premières minutes.
Dans les premières minutes sur l'arrêt cardiaque. Voilà, sur l'arrêt cardiaque. Mais c'est très difficile de réanimer un arrêt cardiaque. Donc, on essaye d'aller plus en avant pour faire le massage cardiaque le plus vite possible. Donc là, moi, je vous recommande d'appeler le 18 ou le 15 parce qu'on va vous dire quoi faire. Mais ceux qui font, faut pas qu'ils culpabilisent ou qu'ils se disent je vais rien faire parce que je vais aggraver. Mais si, il faut faire le massage parce que la personne est déjà morte si vous faites rien. Donc d'un coup, vous risquez pas d'aggraver la situation.
Juste quelque chose de très pratique, Patrick Peloux, pour savoir si une personne est vraiment en arrêt cardiaque. Parce que peut-être quand même la première question à se poser quand on est face à une personne qui fait un malaise, parce que il y a différents grades dans le malaise. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr devoir faire un massage cardiaque?
Il faut lui demander de répondre à les questions, elle répond pas. Donc il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, elle vous voit pas. D'accord. Et vous essayez de prendre un pouls, il n'y a pas de pouls. Mais surtout, si vous voulez, maintenant, on a simplifié encore les choses. Si jamais la personne est vraiment inconsciente et ça passe pas, on fait un massage cardiaque.
C'est arrivé
qu'on arrive. En fait, il y a un pouls. Bon, on a un peu remué le thorax, ça fait un petit peu mal, mais en gros, il vaut mieux faire ça plutôt que de laisser un arrêt cardiaque sans soin. Un arrêt cardiaque qui est pas massé, on peut rien faire. Rien faire après. Passer 3 à 5 minutes, c'est extrêmement difficile. On est allé très loin dans la réanimation, notamment préhospitalière et notamment au niveau du SAMU de Paris, grâce à des équipes extrêmement performantes, où on a monté des principes de pose de circulation extracorporelle à l'extérieur de l'hôpital. C'est du jamais vu. Bon, on va au bout de ce qu'on peut faire, mais c'est les premières minutes qui comptent.
Alors, on va prendre à présent en ligne le député de l'Isère, Jean-Charles Collaroy, député La République En Marche. Bonsoir, monsieur Collaroy.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Eh ben, je vous en prie. Il se trouve que vous, l'arrêt cardiaque inopiné, c'est lutter contre, c'est votre cheval de bataille. Vous avez fait une proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée, justement pour sensibiliser le grand public, pour créer un statut du citoyen sauveteur. Expliquez-nous ce que vous souhaitez faire à travers cette proposition de loi.
Oui, tout à fait. Avec mon collègue député de Paris, Hugues Ranson, on a proposé ce sujet. D'ailleurs, ça a été voté à l'unanimité, donc je remercie aussi l'ensemble des oppositions de l'avoir voté. C'est lutter contre l'arrêt cardiaque, la mort subite. C'est 50 000 morts chaque année en France. C'est 10 fois plus que les accidents de la route. Et on en parle peu parce qu'on considère que c'est une fatalité. Aujourd'hui, le taux de survie quand quelqu'un s'effondre d'un arrêt cardiaque, c'est 7%. Dans des pays où il y a plus de sensibilisation au premier secours, où il y a plus de défibrillateurs, où il y a plus de prise de conscience, eh bien le taux de survie peut être de 15 à 20%. Donc on pourrait sauver chaque année 3000 vies en se formant au premier secours au niveau de la population. Donc voilà, c'est l'objet de ce projet de loi.
L'objet de ce projet de loi, c'est de former les gens, c'est ça?
Oui, c'est de créer ce statut de citoyen sauveteur pour rassurer et encourager les citoyens qui vont intervenir avant que les secours professionnels n'arrivent. Parce que le professeur Peloux l'a rappelé, chaque minute qui passe avant l'arrivée des secours, ce sont 10% de chances de survie en moins pour la victime. Donc finalement, c'est le proche, le collègue de travail, le passant dans la rue qui va voir une personne qui s'effondre et qui intervient dans les minutes qui précèdent l'arrivée des secours, qui va permettre d'augmenter considérablement les chances de survie.
Jean-Charles Collard, juste une petite question, parce que je ne comprends pas très bien en quoi un statut du citoyen sauveteur va changer les choses. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, en fait, une des premières questions que posent les gens quand ils vont se former, c'est « qu'est-ce qui se passe si je fais mal ?» Eh bien, en fait, ce statut, ça permet de rassurer les gens et de leur dire « voilà, si vous intervenez, vous devenez un citoyen sauveteur, vous faites un acte citoyen, et le professeur Peloux l'a bien expliqué, et vous n'avez aucun risque d'être poursuivi si vous faites mal les choses. Et si jamais, en traversant la rue pour aller porter secours, il vous arrive quelque chose, vous êtes couvert parce que vous devenez collaborateur occasionnel du service public. Donc ce statut, il est important pour couvrir, pour rassurer et pour encourager les gens à se former et à faire les premiers secours. Il n'y a aucun risque à intervenir.
Alors Jean-Charles Collaroy, vous restez en ligne avec nous. On va demander à Patrick Peloux ce qu'il pense de cette idée d'un statut du citoyen sauveteur. Patrick Peloux, bonne idée.
Je remercie le député de me faire professeur, mais je suis que docteur. Et c'est déjà très bien pour moi, je trouve. Mais merci, monsieur le député.
Vous prenez, mais vous avez raison. Tout,
mais vous savez, merci à ces deux députés d'avoir fait ce projet de loi qui est très intelligent, en fait. Moi, je me souviens qu'une fois, je me suis retrouvé au téléphone, je vous dirai pas où ni quand, parce que je veux pas accuser ce monsieur, mais il y avait un monsieur qui était au téléphone, il me dit, il y a une dame qui a fait un arrêt cardiaque, je ne ferai rien. Et je lui dis, pourquoi vous faites rien? Il me dit, elle est morte. Je lui dis, mais il faut me faire le massage. Non, je le ferai pas. On a réussi à le mettre en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Et il faut lutter contre ça. C'est-à-dire que d'un coup, il faut que les gens se disent « je vais aller aider quelqu'un » et en fait, en l'aidant, même si ça marche pas, eh ben c'est pas grave, vous ne craignez rien. Et en effet, d'avoir inversé la charge en disant « eh bien maintenant, on joue plus sur le délit de non-assistance à personne en péril, mais en disant « vous êtes protégé si vous intervenez et vous craignez
allez-y,
rien »,
faites-le.
Allez-y, ça c'est formidable. Et alors, on ne demande pas aux gens de prendre des risques. Attention, on ne demande pas aux gens de prendre des risques. Par exemple, de rentrer dans une maison en feu ou de monter le long d'un immeuble ou des trucs comme ça.
On apprend de toute façon quand on se forme.
Hein. Voilà, on apprend quand on se forme. Il faut juste vraiment intervenir et tout de suite. Et c'est vrai que le massage cardiaque et dire aux gens de sécuriser le lieu autour, etc. Mais d'emblée de faire en premier lieu le massage cardiaque, c'est vraiment, puisqu'on parle de l'arrêt cardiaque, on pourrait parler des autres gestes qui sauvent. Moi, un qui me...
On va en parler, Patrick Peloux, mais je voudrais juste qu'on termine sur ce sujet avec Jean-Charles Collaroy. La proposition de loi a été adoptée, donc c'était quoi, au printemps dernier, à l'unanimité à l'Assemblée. Elle va arriver au Sénat bientôt.
Oui, et elle va être étudiée au Sénat, là, à l'automne, par les collègues sénateurs. J'espère qu'ils leur feront un bon accueil à ce projet. Et puis, je voulais vous dire un mot aussi sur l'aspect formation, sensibilisation.
Allez-y, puisque c'est notre sujet, oui.
Oui. J'insiste auprès de vos auditeurs pour bien rappeler que c'est simple de se former. Ça s'apprend en 2 heures, ça peut s'apprendre dans une galerie commerciale, dans un centre commercial, au bord d'une plage. En fait, c'est alerter, masser, défibriller. Et c'est simple, parce qu'on est passé d'une approche élitiste des premiers secours, où c'était réservé aux professionnels de santé, ça paraissait compliqué, à une approche généraliste. On veut passer de 30% de la population formée à 80% de la population sensibilisée. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'expliquer à vos auditeurs, aux citoyens, que apprendre des gestes de premier secours, c'est simple, c'est facile à faire et c'est un acte citoyen.
Dernière question, Jean-Charles Collaroy, puis ensuite je vous libère. On entendait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu cet auditeur qui nous disait qu'il n'avait pas les moyens de payer la formation. Oui. Vous êtes dans la majorité, vous êtes du côté des politiques, des décideurs, des financeurs, de ceux qui tiennent le cordon de la bourse. Bon, est-ce qu'il ne faut pas peut-être mieux subventionner ces formations? Et puis, dernière question dans les questions, les défibrillateurs, est-ce qu'il ne faut pas faire plus aussi pour en installer un peu plus dans ce pays?
Alors, vous avez raison. Sur la première question, c'est pour ça qu'on rajoute des moments dans la vie pour la formation. On en met au collège, on va en mettre dans le cadre du service national universel, dans le cadre de l'entreprise avant de prendre la retraite. Et ça va être des formations qui vont être, des sensibilisations qui vont être payées par les entreprises. Et puis, sur la deuxième partie de votre question, vous avez raison, il faut plus de défibrillateurs. Aujourd'hui, il y a par exemple une loi qui permet de généraliser les défibrillateurs dans les lieux publics. Et ça va faire qu'on aura de plus en plus de défibrillateurs un peu partout et on va les repérer grâce à des applications, par exemple, où on va pouvoir savoir rapidement où sont les défibrillateurs.
Merci beaucoup, Jean-Charles Collaroy, d'être intervenu ce soir sur France Inter. Patrick Peloux, sur les défibrillateurs, essentiels aussi ?
Ah bah c'est essentiel et je vous signale qu'on va pouvoir être le pays au monde dont la capitale, Paris, va être la ville la plus dotée de défibrillateurs et ça a été voté à l'unanimité des conseillers municipaux et ça c'est formidable. Mais c'est sûr qu'après, il faut vraiment que les gens comprennent que alerter dès qu'il se passe quelque chose, ça fait partie vraiment de la chaîne de secours.
Peut-être Louis-Marie Poitou, sur tout ce qu'on vient d'entendre de la part du député, ce serait une bonne chose que ce soit un petit peu plus subventionné. Du côté de la Croix-Rouge, vos formations, ça vous aiderait forcément ?
Nous, on considère qu'on a une responsabilité d'intérêt général. C'est inscrit dans l'histoire, dans l'identité de la Croix-Rouge, d'aider les populations. C'est vrai que l'important, c'est vraiment de prendre conscience que chacun est capable de le faire. À nouveau, les enfants sont capables de le faire. Et d'ailleurs, plus on l'apprend jeune, plus ça devient quelque chose de normal, d'automatisé. Quant à bénéficier d'un appui renforcé de l'État, bien entendu, nous, c'est un modèle économique qui est fragile. Sans cet argent, il est difficile derrière de former nos volontaires. Donc, on a besoin de cet appui.
On repart au standard de France Inter. Robin est en Savoie et il est au bout du fil. Bonsoir, Robin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Et voilà, alors moi je suis formateur de secouriste, alors je forme à la fois des professionnels, puisque je suis pisteur secouriste l'hiver, donc professionnel, donc je forme des pisteurs secouristes, et le reste de l'année, je forme également donc du grand public, alors à la fois des sauveteurs secouristes du travail, je crois que votre premier auditeur disait qu'il avait fait cette formation, et des secours, donc ce qu'on appelle le PSC1, les secours civiques de niveau 1. Alors, j'entends tout ce que vous dites et je pense que c'est hyper important que la majorité des gens soient formés. Après, la problématique, elle reste toujours pareille et ça rebondit un petit peu avec ce que disait monsieur le député juste avant. C'est-à-dire, une fois qu'on est formé, si on pratique pas, le jour où ça nous arrive, c'est compliqué. On a peur de mal faire, on a peur de pas trop savoir quoi faire, on a peur d'être embêté. C'est souvent effectivement ce qui ressort dans les formations. Et du coup, je pense que pour aller plus loin, ça sera certainement dans un deuxième stade, mais à mon avis, ce qui est hyper important, c'est de former la majorité, le plus de personnes possible, mais surtout derrière, d'avoir un maintien des acquis qui est obligatoire en secouriste du travail, mais qui ne l'est pas, qui est conseillé, mais qui n'est pas obligatoire actuellement en PSC1. Et malheureusement, une fois qu'on a fait sa formation, c'est un diplôme qu'on a qui est valable à vie, c'est un certificat à vie. Si on ne pratique pas, le jour où ça nous arrive, le jour où on est confronté, alors il y aura peut-être un vieux reste. Mais en tout cas, le fait de pratiquer ensuite régulièrement, et c'est pour ça que les associations, style la Croix-Rouge ou autre, c'est hyper important. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette volonté personnelle de tout le temps avoir ce maintien des acquis pour essayer de continuer à être efficace.
Quoi. Merci Robin pour cette remarque. Se recycler, toujours réapprendre, ne pas perdre la main, Louis-Marie Poitou, essentiel.
Oui, c'est essentiel, mais il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on se forme en espérant ne jamais avoir à passer à l'action. Donc, ce que dit cet auditeur est vrai. Je voudrais pas culpabiliser ceux qui ont suivi cette formation et qui n'ont pas suivi de formation continue. On parlait de recyclage avant, de formation continue, de révision de leur formation. Certes, c'est très important et c'est pour ça qu'il y a des formats ouverts, événementiels, comme la Journée mondiale des premiers secours. Mais j'insiste sur ce que disait le docteur Peloux. Ne serait-ce que passer l'alerte, c'est mettre en place la chaîne de secours, c'est mettre en place la chaîne de survie, et c'est aussi le rôle des secours publics, des services publics, de pouvoir guider le sauveteur par téléphone pour que le sauveteur se sente prêt à l'action.
Alors d'ailleurs, j'ai un certain nombre de questions, il y en a sur franceinter.fr, et puis des questions qui se posent en général sur que penser de ces fameuses applications qui permettent de repérer les personnes en difficulté ou d'envoyer les sauveteurs à l'endroit où une personne fait un malaise, par exemple, Patrick Peloux.
Alors, par exemple, il y a une application qui a été développée par les SAMU qui s'appelle Save Life, et qui est une application qui nous permet à nous
de géolocaliser les victimes.
Géolocaliser des victimes, mais surtout des personnes qui pourraient aider. Donc c'est tout à fait gratuit, c'est des formations, ça fait partie des nouveaux outils.
Save Life avec le SAMU, il y a aussi Staying Alive avec les pompiers.
Avec les pompiers, voilà, ou le Bon Samaritain, il y a des tas de formules qui existent. C'est une arborescence
Il y a encore un. Mais autant côté servir des outils d'aujourd'hui, quoi. C'est pas mal, non?
Voilà, mais c'est très bien. C'est quelque chose qui est très bien. Tout ce qui peut sauver, mais surtout ce que je voudrais dire pour les gens, n'oubliez pas que on a besoin d'avoir des gens qui deviennent secouristes chez les sapeurs-pompiers. Un engagement sapeur-pompier volontaire, ça s'appelle. On en manque aujourd'hui. Il faut des secouristes à la Croix-Rouge, à la Protection civile, à l'Ordre de Malte. Il y a plein d'associations. C'est l'honneur et c'est l'engagement citoyen. Moi, je pense que ceux qui nous écoutent, ils devraient se dire deux, trois fois par mois, je passe. Et puis, au moins, c'est la meilleure méthode de pratiquer, d'accord. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces secouristes et pour ce qu'ils font sur le terrain. Moi, je les vois régulièrement. Ils portent des valeurs de la République, de l'humanisme, qui sont formidables. Il faut soutenir tout ce qui est fait comme ça, qui fait des engagements de respect. Comme ça, de trucs collectifs qui font que d'un coup on prend soin des autres, ça c'est formidable. Le secourisme en fait partie.
Surtout qu'une bonne partie le pilier de nos services de secours repose sur le volontariat en France.
Le volontariat,
on l'oublie ça, même pour.
On l'oublie et je vous assure.
Chez les pompiers, c'est une évidence.
Chez les pompiers, si vous avez envie de faire du sport et de rencontrer une bonne bande d'amis, etc., et de travailler, d'être utile, engagez-vous comme sapeur-pompier volontaire. On en manque.
On repart au standard cette fois.
Et c'est mixte.
Oui, mais pourquoi ce serait pas mixte?
Non, parce qu'il faut pas se dire à l'idée que d'un coup être secouriste c'est que les hommes, c'est aussi les femmes, d'accord?
Il manquerait plus que ça.
Voilà.
Merci de le préciser. Paul est à Lons-le-Saunier. Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
La question, elle est très simple. Parce que depuis le début, on parle de combien ça coûte. Et le collègue de la Saône-et-Loire, sa question a été balayée d'un revers de manche, je trouve.
Vraiment?
Mais mon point de vue à moi, c'est combien ça rapporte en fait. Parce que le fait que ça soit pas intégré à la formation initiale de l'école de la République, vous dites on est citoyen sauveteur, mais combien ça coûte à la société, à l'État, quelqu'un qui, suite à un suraccident, suite à une paralysie qui aurait pu être en partie évitée, combien ça coûte à la société par rapport à investir 50, 100, 150, 200 euros dans une formation initiale?
Voilà. Merci Paul de poser la question dans ce sens-là. Merci beaucoup. Patrick Pelou.
C'est la question qui révèle toutes les autres. Vous pouvez pas savoir les économies que ça fait d'un coup de savoir poser le garrot au bon moment sur une hémorragie, de mettre quelqu'un en position latérale de sécurité parce que d'un coup ça va pas ou il fait l'accident vasculaire cérébral, de commencer le massage cardiaque parce que vous allez protéger en fait l'oxygénation du cerveau, donc du coup il y aura pas d'handicap plus tard. Donc en fait le secourisme fait des milliards, je dis bien des milliards d'économies à la sécurité sociale et au collectif. Sans oublier, parce que vous pourriez dire, parce que je vous entends, vous dites, ah bah oui, mais quelqu'un qui est mort, ça va pas coûter cher. C'est
non,
faux.
Non, j'ai pas dit ça.
Si, parce que quelqu'un qui meurt, c'est toute une valeur humaine qui meurt. C'est-à-dire, vous perdez un savoir, vous perdez quelqu'un qui était dans les bureaux, sur le terrain, etc. Et c'est des valeurs humaines. Et c'est pour ça que le secourisme protège, non pas simplement un individu, mais il protège l'esprit collectif et la société.
Voilà, et j'ai une remarque de Maëla sur franceinter.fr intéressante. Je suis professeur des écoles et les enseignants ne reçoivent aucune formation de premier secours. Il faut que les parents sachent qu'ils confient leurs enfants à des adultes non formés pour les secourir. Qu'est-ce que vous en dites, Louis-Marie Poitou ?
Qu'on peut les aider, ces professeurs, avec des dispositifs où on vient à l'école justement présenter les premiers secours, que ce soit au premier degré, que ce soit au collège, au lycée. Ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que, comme le disait le docteur Pelou, le secourisme, c'est vraiment un vecteur de confiance et d'estime de soi. Nous, on observe chez les plus jeunes, chez les mineurs, que lorsqu'ils sont initiateurs au premier secours, auprès de leur père, ça a des résultats formidables aussi sur leur scolarité. C'est une école de la vie, on apprend à sauver des vies avant d'avoir le droit de vote. C'est une vraie école de la citoyenneté, c'est ce qu'on retrouve aussi quand on s'engage dans des associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge, comme d'autres. Et ça, je voudrais vraiment que tous les auditeurs en prennent conscience, il y a cette richesse humaine qui va au-delà des aspects économiques.
Alors cet aspect citoyen qui est essentiel, et puis si on veut se fermer les yeux et ne pas voir l'aspect citoyen, très égoïstement, se dire que simplement au sein de la cellule familiale, par exemple, c'est déjà essentiel de pouvoir sauver ceux avec qui on est, parce que c'est quand même souvent là que ça se produit.
Mais chère Claire, ça nous arrive tous les jours, ne serait-ce que par exemple la fausse route à table. D'accord, la fausse route à table où vous avez au fond de la gorge un bout de beefsteak qui se coince, et de savoir faire la manœuvre qui va faire que vous allez enlever le Heimlich, vous allez comprimer l'abdomen pour jouer sur le diaphragme et faire que la viande va s'expulser, ça sauve des dizaines de personnes. Quand on a fait le rapport avec Félix Faure sur les gestes qui sauvent, on a mis plein d'idées dedans. On a dit mais réinventons les plaquettes, réécrivons les plaquettes tous ensemble dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, etc. Voilà, c'est des choses comme ça, des qui ont beaucoup d'intérêt pour le collectif, en fait.
Parce que les secours, ils mettent en moyenne quoi, 13 minutes, un petit peu. Même c'est pas. Une moyenne pour arriver.
C'est une moyenne au niveau national. C'est très très faible. C'est très très faible dans les grandes agglomérations normales. Vous avez des casernes de secours dans tous les pâtés de maison. Donc, par exemple, à Paris,
enfin,
c'est moins
de 10 minutes. Enfin, la fausse route, c'est même pas 13 minutes. Hein. C'est vraiment, c'est instantané. Voilà,
faut savoir faire. Bon, et voilà. Donc, vous avez ça, c'est 10 minutes. Mais c'est vrai qu'en province, c'est un tout petit peu plus éloigné, mais guère plus en plus parce que ça roule mieux. Donc, d'un coup, ils arrivent plus rapidement. Mais en gros, le maillage, pour l'instant, le maillage en France est bien fait. Je dis bien pour l'instant. Bref.
Ça, c'est le docteur Pelou qui dit voilà. Ça. On repart au standard. On va en Seine-Saint-Denis, au Rincy. Jean-Paul est en ligne. Bonsoir, Jean-Paul.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bonsoir, Claire. Bonsoir, monsieur Pelou.
Bonsoir.
Je tenais à témoigner parce qu'il y a deux ans, ça fera deux ans au mois de novembre, j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire. Je suis formateur dans une école du ministère des Finances. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai deux collègues à côté de moi qui ont réagi tout de suite. Deux stagiaires à côté aussi. Qui m'ont pris en main et qui m'ont fait du bouche à bouche en attendant que les pompiers arrivent. Et mon cœur n'est pas reparti tout de suite, il est reparti qu'au bout de 15-20 minutes. Et surtout, je m'en suis sorti, je voulais vous le dire, sans aucun séquel. Bon, ça a duré, bien sûr, le temps, j'ai eu 3 mois d'arrêt, enfin, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais voilà, je voulais témoigner qu'effectivement, sans mes collègues qui ont suivi cette formation, les stagiaires également qui l'avaient suivi, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Quoi, voilà.
Ben, bravo à vos collègues et puis à vous aussi, puisque de toute façon vous êtes formés et que peut-être qu'un jour ce sera à votre tour de sauver une vie. Jean-Paul, vous avez fêté ça avec les collègues?
Écoutez, à chaque fois que je les vois tous les jours, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils m'ont sauvé la vie. Donc bon, voilà, je voulais témoigner qu'effectivement, sans ces stages de formation premier secours, on peut pas, effectivement, ça peut pas fonctionner, quoi. Voilà, je voulais vous apporter mon témoignage. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je vous écoute très souvent. Et là, je voulais vraiment témoigner.
Merci voilà. Jean-Paul, c'est très important d'entendre un témoignage comme le vôtre. On a commencé avec quelqu'un qui avait sauvé une vie, on va terminer avec quelqu'un qui a été sauvé. C'est logique, hein, Louis-Marie Poitou.
Oui, et puis ce dont témoigne Jean-Paul, c'est finalement la réalité de ce à quoi on peut être confronté dans 9 situations d'urgence sur 10. C'est la vie d'un proche qui est en jeu, donc c'est la famille, les amis, les collègues. Là, en l'occurrence, c'est ses collègues qui ont pu l'aider. On parle de dimension citoyenne depuis tout à l'heure, c'est fondamental. Mais quand on regarde de manière plus personnelle, quand on va sauver la vie de quelqu'un, ce sera sans doute la vie d'un proche.
Et puis en plus, ça fait plaisir de sauver une vie, Patrick Pelou.
Ah mais carrément. Et donc les parents qui se posent des tas de questions devant leurs ados qui sont sans arrêt devant les consoles de jeux, envoyez-les se former et qu'ils deviennent secouristes à la Croix-Rouge ou sapeurs-pompiers volontaires. Vous allez voir la super école de la vie que c'est. Et d'humilité, parce que quand on fait du secourisme ou de la médecine d'urgence, il faut rester très humble.
Alors, des petites questions pour terminer rapidement. Delphine, question pratico-pratique, elle est à Bordeaux. Où trouver les programmes et les lieux de la journée internationale de demain, Louis-Marie Poitou? On va sur le site, vous allez me dire?
Oui, alors les usages du temps font que Internet permet d'informer rapidement et bien. Donc, croix-rouge.fr, les réseaux sociaux aussi, Facebook, le site de la Croix-Rouge. Il y a de la chance de toute façon qu'à côté de de chez elle, il y a un événement qui a lieu. Et si c'est pas demain, elle peut prendre rendez-vous dans les semaines et dans les mois qui viennent pour profiter d'une initiation, d'une formation gratuite.
Voilà, donc toutes les infos sur votre site. Il y a Nicolas qui demande aussi pourquoi ne pas intégrer des questions de premier secours au moment de l'examen du permis de conduire. Il en a été question de ça.
Oui,
Patrick Pelon, on en est où
dit,
de cette affaire?
On l'a dit dans le rapport, ça pas été fait, ils voulaient pas compliquer les choses, mais je pense que c'est des idées qui avancent et on y arrivera. Ça fait partie de ces choses qui me paraissent absolument inéluctables. Ça peut être aussi normalement ils sont tous formés au secourisme et aux gestes qui sauvent avec le fameux service national, service civique, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est en train de naître. Donc il y a une mobilisation à la fois des politiques, on l'a entendu avec le député qui fait un travail formidable et ses idées pour avancer, mais vraiment ça n'empêchera jamais l'engagement citoyen. On pourra jamais dire aux gens qui n'ont pas envie de se former ou qui disent quand ça, parce que ça c'est sans arrêt. Moi je le vois au SAMU où d'un coup il y a un grand drame et les gens après ils regrettent. Faut pas que vous regrettiez. Il faut que vous vous engagiez. Vous allez voir la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, vous vous formez au secourisme. Vous envoyez les plus jeunes faire volontaires dans les associations de secourisme ou les sapeurs-pompiers. C'est formidable. Voilà. Il faut cet élan.
Cet élan, parce que les accidents, eh ben, il y en a de toutes sortes. Et puis moi, j'ai noté que dans ce que dit la Croix-Rouge, vous insistez bien sur les catastrophes climatiques, les pics de chaleur. Il y a de plus en plus de raisons d'être confrontés à des situations de crise, des situations difficiles, hein, Louis-Marie Poitou.
Oui, absolument. Là, on parle des premiers secours, mais finalement, l'évolution du climat, du changement climatique est une préoccupation de plus en plus importante dans la population. Elle a déjà des effets sur la santé et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'agir sur ces notions de prévention et de réduction des risques.
Un très grand merci, Louis-Marie Poitou. Patrick Pelou aussi, merci à vous. Allez vous former tous demain, partout où vous êtes. Hein, ce sera toujours ça de prix. Ce sera très utile. C'est la fin de ce téléphone sonne. Un très grand merci à tous d'avoir appelé, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront. Juste après les informations de 20h, Julia Foyce pour...
Bonsoir.
Bonsoir. On parle de quoi ce soir?
Oui, c'est l'un des grands et beaux débats qui nous interpelle depuis plusieurs mois. L'extension de la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires. Sujet en discussion à l'Assemblée qui suscite beaucoup d'interrogations et de fantasmes aussi. Ben là, vous savez quoi? On va recevoir deux femmes devenues mères par PMA qui vont nous raconter leur réalité à elles.
Voilà, et ça permettra de mieux comprendre effectivement les débats. Un grand merci de Julia Foyce. Finalement, j'ai le temps de remercier Irène Menahem qui m'a aidé à préparer cette émission, Marion Lelay qui l'a réalisé, les standardistes qui ont pris vos appels, Amel Meyer qui a lu vos mails à la technique ce soir, Juliette Delperroux, Henri Bérec et Ronan Mahé.